Vous écoutez l'épisode 143 du podcast « Mes trucs de prof » dans lequel je reçois Cindy Martel, sophrologue et enseignante, qui nous dit comment la sophrologie peut nous aider dans nos vies professionnelles.
Je suis Émilie Lefattan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast « Mes trucs de prof », je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Avez-vous déjà entendu parler ou pratiqué la sophrologie ? Est-ce que vous savez ce que ça peut vous apporter dans vos vies et dans quel cas y avoir recours ? Dans cet épisode, je reçois Cindy Martel, qui est sophrologue et enseignante, et elle nous explique comment la sophrologie est entrée dans sa vie, comment se passe une séance et ce que cela peut apporter dans la vie des profs. Bonne écoute ! Bonjour Cindy !
Bonjour Émilie !
Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast et puis que tu nous permettes de découvrir à la fois un peu mieux ce qu'est la sophrologie et comment ça peut nous accompagner dans notre vie, dans notre vie tout court et puis dans la vie des enseignants et des enseignantes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et puis peut-être aussi nous dire comment la sophrologie est entrée dans ta vie ?
Oui, alors moi je suis professeure des écoles, enfin je suis directrice et professeure des écoles sur une école à Argenteuil en maternelle. C'est une petite école, on est 4 classes, donc je suis la plupart du temps avec mes élèves, j'ai des grandes sections dédoublées. La sophrologie, ça fait longtemps que je la pratique, j'ai commencé à l'adolescence. Je n'étais pas une adolescente très facile pour mes parents. Je faisais beaucoup de crises, crises de colère. J'avais tendance à me laisser complètement envahir par mes émotions. Je n'étais pas bien dans ma peau. Enfin, bon, bref, une adolescente, hein, enfin, assez lambda. Mais finalement, je n'avais pas du tout envie de m'orienter vers les psychologues, etc. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas super bien vu. En plus, la psychologie, c'était un peu pour les fous. Donc, j'ai un ami de ma mère qui était psychomotricien et qui, à l'époque, s'était formé à la sophrologie. Ce n'était pas très commun. C'était il y a 25 ans. Ça fait 25 ans à peu près. Et il s'est formé à la méthode et il en a parlé à ma mère. Il me dit, écoute, pour Cindy, je pense que ça pourrait être pas mal la sophro. Ça lui parlerait bien. Et je me souviens, c'était un mardi soir, j'avais fait une crise de l'espace à mes parents, une grosse crise de colère, et elle avait appelé le mec, et il m'avait reçu une heure après, j'étais chez lui, je faisais ma première séance de sophro. Et en gros, j'ai continué, un an, à raison, j'y allais hyper régulièrement, j'y allais... deux fois par mois et il était chouette parce qu'il me faisait pas payer. Je devais lui verser à l'époque 5 euros symboliques. Voilà.
Génial. Et donc du coup, donc c'est comme ça que tu as découvert la sophrologie.
Oui.
Et elle est restée dans ta vie ensuite où tu as arrêté de pratiquer.
Alors, ce qu'il faut savoir avec la sophro, c'est que quand on la pratique régulièrement, elle laisse une véritable empreinte dans sa façon de vivre. Et là, j'en ai fait pendant un an, ça m'a beaucoup marqué. Je peux pas dire après que j'ai pratiqué de manière régulière jusqu'à ce que je sois formée là récemment. Mais par contre, j'avais toujours ce petit truc de savoir qu'elle était là au cas où. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai apprécié dans la sophro, c'est que ça permet d'être autonome en fait sur la gestion de ses émotions, la gestion de son stress, les difficultés que l'on peut rencontrer, l'image que l'on projette. Le fait de la pratiquer, de l'avoir pratiquée régulièrement à dos, ça m'a donné en fait des éléments sur lesquels je pouvais m'appuyer en fait quand je sentais que ça allait pas bien et je pouvais reprendre des exercices que j'avais pratiqués en séance durant l'année où je l'avais faite de manière intensive. Et je me suis toujours dit, je me formerai. Voilà, je me formerai, plus tard je me formerai. Bon, c'est mon côté enseignant, enfin, d'avoir envie de se former. Je ne sais plus quand c'était une... on a eu une formation de directeur où on a abordé la gestion de conflits. Je ne sais pas si tu y étais.
Je m'en souviens. Voilà. Je me souviens, c'était il y a 3 ans, je crois.
Voilà, c'est ça. Et sur les risques psychosociaux au travail. En fait, là, je me suis dit, waouh, en fait, la sophro, là, clairement, elle aurait vraiment sa place au sein de l'éducation nationale. Voilà, enfin, elle pourrait pas...
Et c'est là le petit truc qui a fait que ça t'a relancé un peu et que tu t'es remis en tête de te former, que ça t'est revenu.
Et en fait, moi, c'est vrai que je me souviens, je me posais pas mal de questions sur, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu plus de plus fun pour apporter une autre touche à mon quotidien. Et je me suis dit, ah, ben, ce serait chouette de me reformer, de me former à la sophro. Donc ce moment-là, là, avec la gestion de conflits, la médiation, ça m'a parlé et j'y ai vu un lien, en fait. Et je me suis dit, il y a des choses essentielles qui seraient intéressantes de faire apprendre. Voilà.
C'est marrant parce que cette formation, donc moi j'y étais en tant que conseillère pédagogique et toi en tant que directrice. Et moi, quand j'étais déjà en forme, enfin, j'étais déjà coach à ce moment-là. Et justement, je me souviens très bien de l'intervenante et de cette formation-là où je me suis dit, à moi, de mon côté, ah, mais en fait, le coaching a effectivement vraiment sa place. Et c'est intéressant parce qu'en préparant l'épisode, on s'est dit justement qu'il y avait peut-être des parallèles à faire avec le coaching et en même temps des distinctions qu'on pourra clarifier dans cet épisode-là.
Ouais.
Et du coup, on parle de sophrologie depuis tout à l'heure, mais je me dis que c'est un mot qu'on entend régulièrement. Je pense que tout le monde a au moins une fois entendu parler de sophrologie ou de quelqu'un qui en fait ou de quelqu'un qui lui suggère, mais on ne sait pas forcément ce que c'est et en quoi ça consiste.
Alors, la sophrologie, c'est une méthode pédagogique. Elle est très bien réfléchie, très bien pensée par son fondateur, le Alfonso Caicedo. Elle est basée sur des techniques psychocorporelles va permettre à chacun de développer une conscience sereine. Elle se fonde sur l'observation et l'étude de la conscience, sur la perception que l'on a de notre corps et sur la relation que l'on entretient entre le corps et l'esprit.
Ouais. Donc il y a cette idée, si je comprends bien, vraiment d'aller-retour entre une conscience de soi à la fois dans le corps et à la fois dans l'esprit, dans ses émotions, dans ses pensées, etc.
Oui, et alors après, la sophro, en fait, dans un premier temps, c'est vrai qu'on l'expérimente pour soi et l'objectif, c'est aussi de la déployer vers les autres. C'est-à-dire, en fait, c'est en travaillant la sophrologie, notre relation avec le corps et l'esprit, on va apprendre à développer ses valeurs, on va apprendre à mieux se connaître et ça va permettre de se projeter différemment aux autres et différemment au monde.
Et à quel moment on peut y avoir recours ?
Ouais, la sophrologie, elle peut être utilisée pour travailler en profondeur sur soi, pour apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître ses valeurs, à renforcer ses capacités. Voilà, c'est un travail, on dirait, structurelle sur ce que l'on est. Et ensuite, on peut la pratiquer de manière plus ponctuelle sur des entraînements spécifiques pour préparer quelque chose de particulier. C'est-à-dire, tu vas avoir besoin de préparer un examen, tu vas être stressé par l'événement. Paf, l'objectif, ça va être de travailler sur la préparation à cet événement. On ne va pas forcément aller chercher plus loin, on va travailler sur des techniques spécifiques permettant de développer des compétences en vue de préparer cet événement. Je ne sais pas si tu vois la différence.
Oui, voilà. Je vois. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est un petit peu plus générale sur la personne, l'individu, la connaissance de soi et qui peut être faite un peu n'importe quand, tout le temps, comme soutien dans la vie, de manière générale, oui. peut-être. Mmh. Et puis là, il y a une partie aussi qui peut être vraiment plus spécifique, fonctionner avec un objectif
avec ou
un contexte bien particulier, une demande, un peu comme le coaching au final, où voilà, il y a une situation, un contexte, une problématique, un sujet, un événement qu'on va vivre. Mmh. Tu as parlé par exemple de la préparation d'examen, mais toute situation qui peut peut-être générer du stress ou des questionnements, des angoisses, etc., où on va pouvoir, à partir de cette demande-là, ce besoin spécifique-là, utiliser la sophrologie pour remettre un peu de conscience et un peu de soi, pour se calmer un peu aussi.
Ça va être préparer sa conscience à l'événement. Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion, qu'est-ce que je vais mettre en place comme le sophrologue va réfléchir à, bon, alors comment je vais préparer la personne pour ce jour J qui la stresse. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'aider à résoudre son problème.
Ok. Et dans quelle situation la sophrologie, du coup, elle a pu t'aider en tant que prof qui consulte un sophrologue ou qui pratique la sophrologie?
Elle m'a beaucoup aidée, à la fois en tant que directrice dans ma communication avec les familles, dans la communication avec les collègues. Et elle m'a beaucoup aidée aussi en classe avec mes élèves, sur la posture en fait, la juste posture, sur sa manière d'être et de se projeter justement. Et la sophrologie, elle m'aide en fait à regarder les personnes avec lesquelles je travaille ou regarder les partenaires avec lesquels je travaille d'une autre manière. C'est-à-dire que déjà, j'essaye de mettre entre parenthèses tous les filtres interprétatifs, toutes les situations dans lesquelles en fait je pourrais me laisser embarquer par moi, mes propres jugements, etc. Et là, paf, j'essaye de me mettre un peu comme la sophrologue que je suis quand je suis en séance de sophrologie, avec cette mise à l'écart, mise entre parenthèses de tout contexte pour être vraiment le plus présente possible pour la personne sans préjugés. Donc c'est-à-dire que je vais me mettre dans une posture d'écoute. Et ça recoupe d'ailleurs la formation qu'on avait eue sur la médiation et gestion de conflits. Donc, accueillir la parole de l'autre, se positionner, aider à reformuler. La sophro, ça m'aide par rapport à ça. Ça m'aide physiquement quand je suis stressée. C'est-à-dire que, par exemple, je vais avoir un parent qui va arriver, qui va être en colère, je sais que par ma posture corporelle, le fait de m'ancrer au sol, de sentir le poids de mon corps, de prendre ma respiration, de poser une attention sur ma respiration, ça va me mettre le corps en fait dans un process où je vais être capable d'accueillir la personne en me disant je vais pas être dans la réaction, je vais être dans l'écoute. Parce que je me suis repositionnée, moi, dans mon corps, je me sens bien, je suis présente, je suis ancrée, je suis là pour lui, disponible. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant la sophro. Pas autant, en tout cas.
Ouais. Moi, j'entends là ce que tu me dis comme... Moi, je n'ai jamais fait de sophro, mais par contre, j'ai exploré plein d'autres choses et j'ai sur la partie émotionnelle, sur le corps, etc. Et là, quand je t'entends le dire, je me dis, en fait, la sophro, c'est la boîte à outils de mise en œuvre de toutes les théories qu'on pourrait avoir sur la gestion des émotions, sur la connaissance de soi. Et tu vois, cette idée de passer par le corps, c'est-à-dire que, on va dire, ouais, c'est important de réguler ses émotions pour faire ta-ta-ti-ta-ta-ti-ta-ta-ta. Mais concrètement, comment on fait? Et là, j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, c'est pam, la sophro, elle t'apporte l'outil concret pour en situation. Voilà, qu'est-ce que je fais de mon corps, comment je mors, comment je respire, sur quoi je mets mon attention, etc.
Par contre, il faut de l'entraînement. C'est clair que c'est pas... en ayant fait deux séances, il faut être clair, que les gens soient clairs par rapport à ça. C'est-à-dire que la sophrologie, c'est comme une préparation en fait, à une compétition. Par exemple, lors d'un marathon, on prépare ses muscles. Et ça passe par un entraînement régulier. Pour pouvoir retrouver cet état assez rapidement dans des situations justement comme ça d'urgence à gérer, il faut une pratique régulière de la sophro. C'est un entraînement de la conscience. Et en s'entraînant, finalement, ça s'intègre. C'est comme s'il y avait une intégration corporelle de ce qui avait été vécu en séance. Et du coup, on peut réussir à se remettre dans un état qu'on pourrait avoir en séance assez rapidement. Voilà. Ouais. Et du coup, par exemple, je vais avoir une réunion où ça va partir un petit peu dans tous les sens, où il y a une situation de crise à gérer. Eh bien là, la sophro, ça m'aide. Je me remets sur mon fauteuil bien droit. Je me mets justement, parce qu'on travaille avec des postures en sophro, donc il y a des postures en fond de siège, en bord de siège, etc. Et du coup, je vais me positionner, je vais me remettre dans la posture en bord de siège, avec les mains posées sur les cuisses, le dos droit. Je respire. Et là, je me mets dans un process où je suis prête à accueillir la personne telle qu'elle est, prête à charger s'il faut, quoi.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, dans l'idée de... C'est pas du jour au lendemain.
Non.
Qu'en fait, c'est en le faisant régulièrement que du coup, dans la situation d'urgence, on peut le remobiliser.
Oui.
Et ça, c'est hyper important parce que finalement... C'est aussi, ça me fait penser à quand on essaye de calmer les élèves pendant qu'ils sont en crise. C'est aussi parce qu'on a parlé des règles avant, parce qu'on a évoqué la crise avant, etc., qu'on peut remobiliser dans l'urgence ce dont on a déjà parlé ou qu'on a su faire avant. Mais si on essaye à chaque fois d'apprendre à l'élève de se calmer au moment où il est en crise, ça va être compliqué. Et là, je faisais le parallèle parce que je me dis, oui, on a besoin de pouvoir l'avoir fait avant, si j'entends ton propos, de s'être entraîné pour avoir ancré un peu des choses, avoir créé des automatismes finalement et savoir quels outils utiliser quand, mais avoir déjà un peu la maîtrise des outils au préalable.
Oui, c'est rigolo ce que tu me dis là quand tu parles de posture et que tu parles des élèves, parce que mes élèves, forcément, je m'entraîne un petit peu avec eux. Et au niveau de leur posture, c'est-à-dire que quand je sens qu'il y a trop d'agitation et que c'est difficile de revenir au calme, je leur dis « mettez-vous en posture d'élève ». Et la posture d'élève, en fait, c'est une posture qui est associée à une posture de sophro. Et en fait, c'est une posture dans laquelle ils vont avoir les fesses bien ancrées au sol, les mains posées sur les cuisses, et hop, on souffle, tchac. Et en fait, je le fais tout le temps. Et on se met en posture d'élève et poum, et là ils savent que c'est la posture d'écoute et ça les aide.
C'est hyper intéressant là ce que tu dis sur le mot posture, parce que et là au-delà de la sophro, c'est cette idée même dans la posture professionnelle, même dans la posture, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose qu'on dit comme ça aux gens, oui il faut avoir la bonne posture, mais en fait c'est l'idée que cette posture là elle se travaille, elle se définit, elle se pense en amont, et pour pouvoir la revêtir au bon moment,
c'est ça.
En fait il faut déjà en avoir dessiné les contours avant, et je trouve que ça va... Enfin, tu vois, tu parlais de la posture d'élève, mais de tout à chaque fois qu'on veut utiliser le mot posture, en réalité.
Et voilà, et pour les enseignants, ça va être qu'est-ce que je projette à mes élèves, moi je me perçois et qu'est-ce que mes élèves vont percevoir de moi, comment je peux être à l'aise avec ce que je suis pour pouvoir être à l'aise avec les autres en fait et avec les élèves. Et puis c'est la manière de poser sa voix, la manière de se mouvoir, la manière de... Enfin, il y a tout un travail là-dessus que les profs peuvent faire aussi par rapport à qui je suis moi, comment je me projette aux autres et comment je me place avec mon corps dans une pièce, dans un espace, comment je suis perçue.
C'est marrant parce que là, j'entends dans ce que tu dis des sujets que j'aborde régulièrement en coaching, mais qu'on va du coup aborder un peu de manière un peu plus cérébrale, peut-être un peu émotionnelle, mais surtout cérébrale en coaching. On va discuter, dégrossir, réfléchir, explorer nos pensées, etc. Où là, il y a vraiment la question du corporel, en tout cas dans la sophrologie, c'est très... tu me disais la dernière fois au téléphone, corporalisé, mais voilà, il y a ce lien qui revient à chaque fois avec le corps.
On appelle ça l'intégration. Okay. J'intègre et je le garde.
Est-ce que tu vois d'autres exemples de situations dans lesquelles la sophrologie, elle peut aider les profs, et peut-être là, de répondre plutôt en tant que sophrologue et pas forcément ce que tu as vécu.
Plein de choses. Déjà, on le sait, la journée du prof, c'est une journée à 100 à l'heure. On a tendance à être toujours dans l'après. je suis en train de faire un truc, mais là, qu'est-ce que je vais faire après? Et là, j'ai pas préparé là, et j'ai pas préparé ça. Et vite, 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 on court, et vite, 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 on mange, et vite, 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 et la journée, elle passe à 100 à l'heure comme ça, et on s'impose un rythme dans lequel finalement, voilà, on se retrouve pas forcément, parce qu'on a l'impression de faire tout très vite, tout très mal. Enfin voilà, une journée qui passe à 100 à l'heure, et en plus, parfois on prépare, et puis les élèves, ils vont pas être dispo à ce moment-là, donc on a l'impression d'avoir préparé pour rien. Bref, ça permet en fait aussi à certains moments de la journée de se poser et de se dire, bon, mais qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je le fais? Et puis de se dire, allez, je m'aménage un temps de pause. Je vais m'aménager un temps de récup. Et moi, ça peut m'arriver, par exemple, entre midi et deux, parce que quand j'ai la direction et la classe à gérer en même temps, je sens, je perds de contrôle, je me noie, et je m'enferme dans mon bureau, et je me mets 5 minutes, et je me fais une petite séance de sophro, je travaille l'ancrage, je travaille la respiration, parfois je me projette sur l'après-midi, sur ce que je vais y faire. Et j'ai eu l'occasion en fait d'expérimenter ça avec mes collègues entre midi et 2 heures, parce que quand j'étais en formation, je devais animer un groupe pendant 10 séances, et je l'ai proposé à mes collègues parce que enfin ça me semblait le plus pertinent, puis ça me permettait de jongler avec et de recouper un peu toutes mes compétences et tous les domaines. Et donc je l'ai proposé à mes collègues tous les mardis, on faisait une séance d'une heure, donc on se mettait dans une salle de classe, on mettait les chaises disposées en cercle, et puis alors après, donc il y avait toujours le même processus, donc il y a une petite météo sur comment on sent, de quoi on aurait besoin, voilà. Et puis moi après je propose une séance, donc d'abord je décris ce qu'on va faire, donc j'explique les exercices que l'on va pratiquer. Aujourd'hui on va travailler sur des techniques de respiration, donc on va d'abord se mettre debout, puis on va faire un scan de tout notre corps, puis ensuite on reviendra en fond de siège, puis on fera une respiration diaphragmatique posée. Bon, ouais, voilà, je t'explique, ça c'est une information présophronique. Ensuite, on vit la séance, c'est-à-dire que pendant 20 minutes ou 5 minutes, ça dépend, enfin voilà, de l'objectif, on va vivre la séance. Moi, je pratique la séance avec les personnes, donc là, en l'occurrence avec les collègues, en utilisant le « nous ». Donc, et enfin, à la fin... on fait, comment on pourrait dire ça, comme un débrief. Alors dans le jargon, on appelle ça une phénodescription, où on va essayer de décrire ce que l'on a ressenti durant la séance. C'est en lien avec la phénoménologie. On observe les phénomènes. Voilà.
Ouais, merci de nous rendre explicite le déroulement d'une séance, parce que je pense que ça aide à voir un petit peu comment ça se passe. Quand tu parles des exercices, le corps est quand même hyper, hyper présent.
Oui, le corps, après, ça va dépendre de l'objectif, en fait, que l'on se fixe. Mmh. On peut travailler avec des visualisations aussi. Ouais.
Après ces 10 séances là, avec tes collègues, est-ce que tu as eu des retours de tes collègues sur ce que ça leur a procuré ou qu'est-ce que ça a changé pour elles?
Collectivement, on peut dire que le bénéfice qu'elles en tiraient, c'est qu'elles avaient l'impression de redémarrer sur une nouvelle journée. Le fait de prendre ce temps de pause entre midi et 2 heures, bon alors on ne peut pas pratiquer une heure tous les entre midi et 2, hein, c'est pas possible. Mais le fait de pratiquer du coup la sophro entre midi et 2, ça permettait vraiment de se régénérer. Et de repartir sur une nouvelle journée. Voilà, c'est ce qu'elle me disait. Là, j'ai l'impression de repartir sur une nouvelle journée.
C'est génial. Et c'est vrai que, tu vois, je pense à une coachée récemment qui s'était mise à la marche le midi. Et ça lui permettait de couper et que c'était agréable pour la suite de la journée. Mmh. Et du coup, c'est vrai que ça me fait dire que quand même, on ne prend pas souvent le temps de faire de cette pause méridienne... d'en profiter pour faire une vraie, ouais, coupure. Et là, tu vois, tu as parlé de... Même ne serait-ce que de se poser. J'avais fait un épisode l'année dernière sur l'idée d'avoir des sas et juste de prendre ce temps-là avant de commencer quelque chose, avant de commencer une demi-journée, etc. Ben, peut-être de là, de revenir dans son corps, de se projeter sur ce qu'on va faire, de prendre le temps de respirer et de couper. Ce que tu disais tout à l'heure sur cette journée à 100 à l'heure, là, de prendre le temps de... Un peu, je sais pas, se remettre à niveau, se re-remplir. Tu vois, j'ai une idée de se remplir sa jauge d'énergie.
Le gain aussi, alors on peut faire, je le recoupe pas mal avec les compétences psychosociales. quand on parle d'identifier ses émotions. Voilà, connaître ses émotions, les identifier, apprendre à mieux les vivre. La sophro aussi, ça permet tout ça. Ça permet déjà de mieux se connaître, donc de mieux connaître, de mieux appréhender ses ressentis, de mieux identifier ce que l'on ressent et des mots dessus. Voilà. Et juste porter conscience à. Et en fait, ça aide déjà pour soi. C'est-à-dire là, en fait, je suis en colère contre mon élève. Est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est de la frustration parce que j'ai pas réussi à l'amener où je voulais. Donc colère, frustration, c'est pas la même chose. Le fait d'avoir travaillé dessus en sophro, ben, ça permet de bien discerner la différence. Ça va être permettre d'identifier les émotions de ses élèves, c'est-à-dire que ok, là il a l'air complètement dans la provocation, mais en fait qu'est-ce qu'il ressent, de quoi il a besoin? En fait, c'est toujours un peu cette idée de j'ai besoin de quoi et lui, il a besoin de quoi aussi? Enfin voilà, c'est vraiment essayer de se remettre à niveau là-dessus, sur poser l'écart entre les chevaux fous lâchés là, des émotions dites désagréables et en fait finalement ce qui se cache derrière. Et de l'identifier pour soi, mais aussi pour ses élèves. Donc dans l'identification des émotions, enfin, je pourrais, si tu me fais comme ça, un brainstorming de toutes les compétences psychosociales, je pourrais t'en donner plein des liens. Il y en a, enfin, ça tout se recoupe en fait. Enfin, d'ailleurs, je m'amuse à faire. C'est pour ça que j'essaye de faire des posts un petit peu en lien entre compétences psychosociales et sophrologie, parce que ben ça se recoupe énormément. En ce moment, c'est très mis en avant. Les compétences psychosociales.
Non, mais c'est vrai qu'on en
Ouais.
parle de plus en plus et heureusement. Et du coup, sauf que ben, il va falloir aussi former les gens, informer les gens. C'est pas tout de dire qu'il faut les travailler,
Ouais.
mais savoir comment les travailler. Et c'est vrai que ben, je trouve que ce rapport au corps, là, si on reste sur la question ne serait-ce que des émotions, ben, de pouvoir, nous, en tant qu'adultes, ressentir les émotions, savoir comment elles se manifestent chez nous, voilà, quels besoins se cachent derrière. Et ça me rappelle aussi, du coup, la communication non violente, où on travaille beaucoup le lien entre émotions et besoins. Et ben, ça permet aussi de mieux accompagner les élèves, en fait, pour les aider à identifier et reconnaître les émotions, sans forcément faire de la sophrologie avec les élèves, parce que de toute façon, il faut être sophrologue pour ça, mais en tout cas, c'est le fait j'imagine, de faire de la sophrologie en tant qu'enseignant, de consulter un sophrologue et d'être plus conscient pour soi, et c'est un peu le pari que je fais en général, quand on se connaît mieux soi, quand on est mieux soi dans notre corps, dans notre tête, dans nos émotions, bah forcément, on peut mieux accompagner les élèves dans leur découverte.
Ben en fait, pour moi, là, quand tu m'en parles, ce qui me vient, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, toute expérimentation, et si on n'a pas expérimenté quelque chose, on pourra en parler 10 fois, ça fera pas de sens. Il n'y aura pas de sens derrière. C'est-à-dire que, comme tu disais, les compétences psychosociales, ok, on peut les mettre en pratique, comme on peut mettre d'ailleurs, parce que c'est très vulgarisé, la sophro, on peut mettre en pratique des exercices de sophrologie avec ses élèves, mais c'est pas ça en fait. Si toi-même t'as pas appris à faire de la sophrologie, si t'as pas vécu l'expérience, si t'as pas intégré la méthode, parce que c'est une méthode hein, et très bien articulée, hyper construite, 4 degrés, découverte du corps, découverte de l'esprit, rencontre entre le corps et l'esprit, les valeurs. Enfin, c'est vraiment un dévoilement progressif de la conscience qui fait que, enfin, pour mettre en pratique ce genre de choses en fait avec des personnes, il faut l'avoir vécu
Par l'expérience, en
par
tout cas.
l'expérience.
Autre chose sur la sophro, parce que, en tout cas, là, je trouve qu'on a déjà touché du doigt un peu plus. Ben, moi, qui n'ai jamais fait de sophro, qu'on entend parler, qui fait plein d'autres choses, je trouve que là, je comprends vraiment mieux en quoi ça consiste, dans quelle situation ça peut aider, et le fait que, ben, du coup, ce soit expérientiel, comme tu viens de le dire, et qu'il faut le pouvoir le vivre et le vivre plusieurs fois pour pouvoir mieux s'en servir quand on en a besoin. Et est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée?
Alors, la séance de sophrologie, elle se pratique à deux, donc entre le sophrologue et le sophronisé. Le sophrologue vit l'expérience en même temps que la personne qui le reçoit. Au début de toute séance, on explique ce qui va se passer, les exercices et les techniques que l'on va mettre en place. Ensuite, on vit la séance. Et dans un troisième temps, on fait ce qu'on appelle une description de tous les ressentis. Et ces descriptions-là, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir garder une trace. Et pour garder une trace, on passe aussi par l'écrit. Donc, on va avoir un cahier de phénodescriptions où on va poser à l'écrit les sensations corporelles, le vécu, ce que j'ai ressenti quand je me suis projetée 20 ans en arrière dans le meilleur moment de mon enfance. Voilà. Et puis, c'est en se reconnectant par l'écrit à toutes ces choses que l'on a vécues pendant la séance que ça participe à l'intégration. Voilà. Donc, ça peut se dérouler comme ça. Ça peut être juste une mise en mots, passer par l'écrit. En groupe, du coup, partager ses écrits, partager son expérience. Dire, ça arrive souvent, hein, raisonner avec quelqu'un qui vient de vivre quelque chose, bah, ça me parle ce que tu dis, moi aussi j'ai ressenti ça. Et en fait, ça permet de travailler sur soi, en fait.
T'as tout dit. Ben, c'était trop chouette. Moi, je repars en tout cas beaucoup plus au clair avec ce qu'est la sophrologie et dans quel cas ça pourrait m'aider. Donc, je pense que je n'hésiterai pas à y avoir recours à l'avenir. Et est-ce que tu peux, du coup, nous dire, est-ce que... Comment on peut faire de la sophrologie avec toi, par exemple? Comment on peut te contacter, te suivre ou éventuellement prendre rendez-vous?
Alors, j'ai un cabinet à Cergy les dimanches. Je peux recevoir des groupes ou des personnes en individuel. Je propose aussi des séances en visio pour le groupe, pour un groupe ou en individuel. Donc, il y a possibilité aussi de constituer un groupe si des personnes sont intéressées, des groupes de profs.
Okay. Et donc on peut constituer un groupe, admettons un groupe de profs, on peut très bien se dire, ah bah tiens, on est tant de personnes, est-ce que on peut se faire un...
Oui, parfois ça peut donner du courage de venir en groupe en plus.
Il y a un nombre limite pour les groupes?
Là, pour le cabinet, je dirais 4-5 maximum. Après, en visio, on peut organiser à plus nombreux. Pour prendre rendez-vous, du coup, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou Insta.
Ok. Donc, sur ton compte Cindy Martel.
Oui.
Ok, je mettrai de toute façon toutes les explications et tous les liens pour te contacter et te retrouver en accompagnement de l'épisode.
Ok.
Bon, bah merci Cindy pour tous ces éclairages sur la sophrologie.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire deux fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.